Bonjour frères et sœurs. Ce matin, on commence l'étude de 1 Samuel. Je pense que c'est une première. En tout cas, je ne me souviens pas. Ça a déjà été enseigné. En tout cas, certainement pas le livre de 1 Samuel pendant le culte. Donc, 1 Samuel fait partie de 1 et 2 Samuel. Une histoire qui continue, puisqu'à l'origine, il s'agissait d'un seul livre écrit en hébreu. Et ça rapporte, le récit rapporte ce qui s'est passé dans le pays d'Israël, en Israël. Au niveau surtout de la direction spirituelle du pays, donc les sacrificateurs, prophètes, Dieu qui s'adresse à son peuple, mais aussi la direction politique. Et c'est dans Samuel qu'on voit la première fois un roi en Israël. Donc le récit s'étale sur une période de 100 ans. Donc, c'est un assez long récit. C'est probablement, très fortement probable que c'est Samuel lui-même qui a écrit la première partie du récit. Mais vers la fin, c'est pas mal sûr que c'est pas lui, parce que ça se passe après sa mort. Les probabilités sont fortes quand même. C'est un récit qui part de la vie justement de Samuel, la naissance qu'on va étudier aujourd'hui. Et Samuel arrive à la fin de la période des juges. Lorsque le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte, ils ont été conduits dans le désert. Ils n'ont pas pu entrer tout de suite dans la terre promise. Vous vous souvenez qu'ils ont, dû tourner 40 ans pour que la génération suivante, qui était digne d'entrer, puisse entrer dans la terre promise. Ils ont conquis le pays de Canaan, qui est devenu le pays d'Israël. Et pendant environ 400 ans, ce sont des juges qui ont été les dirigeants du pays. En fait, c'était le roi qui était le dirigeant d'Israël, mais lorsqu'Israël s'écartait, il leur envoyait un juge pour provoquer une repentance et les ramener sur la bonne voie. Et Samuel est le dernier des juges, en fait, comme on va le voir aujourd'hui. Et c'est lui qui va oindre le roi Saül et par la suite le roi David. Donc, les livres de 1 et 2 Samuel vont jusqu'à la fin de la vie de David. Donc, on va étudier le chapitre 1, qui est le récit de la naissance de Samuel, en trois actes. Le premier, c'est qui décrit les circonstances difficiles à l'époque de la naissance de Samuel. Deuxièmement, on voit Dieu qui intervient pour faire naître Samuel. Et troisièmement, on voit la consécration de Samuel pour toute sa vie. Consacré à l'Éternel. Donc, lisons ensemble 1 Samuel 1, les versets 1 à 8, pour commencer. Si vous avez seulement un Nouveau Testament dans les mains, c'est le temps de vous procurer une Bible complète. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la deuxième était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles, mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Et Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » On voit d'abord que Elkana était un homme pieux, un croyant, non? Un serviteur de l'Éternel. Et chaque année, il se rendait à Silo avec sa famille pour adorer Dieu et pour offrir des sacrifices. Et sûrement dans le cadre des fêtes principales, la Pâque, les fêtes prescrites dans la loi de Moïse. Pourquoi il se rendait à Silo? Parce qu'à cette époque, c'était c'est là où était situé le tabernacle. Donc le temple n'est pas encore construit. C'est le fils de David, Salomon, qui va le construire. Donc pendant la période des juges, même depuis Josué, le tabernacle a été installé à Silo et les gens se rendaient là pour offrir les sacrifices pour leurs péchés, aussi des sacrifices de communion. Ils pouvaient manger en famille, c'était des temps de réjouissance. Temps de jeûne aussi, d'humiliation devant l'Éternel. Un temps en famille. Il allait adorer Vous avez noté quel nom est donné ici à Dieu? Il allait adorer l'Éternel des armées. Donc, c'est le narrateur ici qui dit ça, probablement à Samuel, qui l'appelle l'Éternel des armées. Mais c'est sous-entendu que Elkanah croyait cela. Il allait à Silo pour adorer l'Éternel des armées. C'est la première fois dans la Bible que cette expression-là est utilisée. Après, on va la voir fréquemment, entre autres dans les psaumes. Mais c'est à ce moment-ci que, pour la première fois, Dieu est appelé l'Éternel des armées. Quelle armée? Ça a un double sens dans la Bible. C'est d'abord l'armée céleste, les anges, l'armée des puissances célestes, qui sont parfois appelées les fils de Dieu. Donc Dieu est le chef de cette grande armée-là, qui est plus puissante que n'importe quelle armée qu'il pourrait y avoir sur Terre. L'armée céleste aussi désigne souvent les étoiles que l'on peut voir. En fait, le parallèle est fait entre le nombre d'étoiles et le nombre d'anges. Donc l'Éternel des armées est un nom qui signifie que Dieu est souverain sur toute la création. Et c'est probablement parce que maintenant, ils sont installés dans leur pays. Ils ont réussi à conquérir la nation, le territoire où ils se trouvent. Que là, ils prennent conscience que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui les a suivis dans le désert ou qui les a menés. C'est le Dieu qui est souverain sur toutes les nations, sur toute la terre, sur l'univers. Autant sur le monde visible que le monde invisible. Et c'est ce Dieu-là que Elkanah va adorer. La foi de Elkanah contraste pas mal avec l'état spirituel de la nation à cette époque, qui n'était pas bon. On voit dans le livre des juges, si vous vous souvenez, que Israël retombe constamment dans le péché. Dieu leur envoie un juge pour les libérer. Ils se repentent, ils se reconsacrent à l'Éternel, mais ils retombent, on dirait qu'ils retombent de plus en plus profondément. Jusqu'à la fin du livre des juges, on lit « Il n'y avait point de roi à cette époque en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et malheureusement, ce qui semblait bon à une très grande portion du peuple, était mauvais. Mais ici, la foi d'Elkanah contraste avec ça. Le texte souligne aussi que c'était l'époque où les fils d'Élie, le sacrificateur, Ophni et Phinéas, étaient sacrificateurs. Mais l'accent est mis plutôt sur les fils, alors qu'Élie est encore vivant, il est encore là, en service. Pourquoi l'accent est mis sur les fils? Parce qu'ils étaient corrompus. On va voir au chapitre 2 dans deux semaines. Dans trois semaines qu'on va voir cette partie-là. Les deux fils d'Élie étaient vraiment corrompus. Ils méprisaient les offrandes qui étaient apportées, les sacrifices. Ils en profitaient pour s'enrichir. Même à cause d'eux, ils entraînaient le peuple même dans la corruption. Et ils attiraient la colère de Dieu sur le peuple. Donc, les dirigeants spirituels du peuple étaient corrompus. Ça n'allait pas bien. Donc, la foi d'Elkanah vraiment tranche avec cela. Il y avait une autre chose qui était difficile dans les circonstances au moment où Samuel est né. C'était la situation familiale. Elkanah était un homme pieux, mais il avait deux femmes. Ici, le texte ne se prononce pas, à savoir si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais on voit ici, comme dans tous les autres exemples de polygamie dans la Bible, que ce n'est pas une bonne chose. Ça amène des problèmes, c'est inévitable. Et lorsqu'on étudie quelle est la volonté de Dieu, en commençant par Genèse, bien, dans toute la Bible, on se rend compte que finalement, ce n'est pas le plan de Dieu qu'un homme ait plusieurs femmes. On lit même dès le moment de la création, lorsque Dieu a créé une aide pour Adam, qui c'était pas bon qu'il soit seul, il crée Ève. Et il dit dans Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. » Dès l'origine de la création de Dieu, le plan de Dieu, c'était qu'un couple qui s'unit soit formé d'un homme et d'une femme. Il y a eu des déviations à travers l'histoire, mais quand Jésus est revenu, il a redéclaré que c'est la seule union que Dieu reconnaît, valide, et qui plaît à Dieu. Un couple marié. Et on est exhorté même dans le Nouveau Testament à honorer le lit conjugal, honorer le mariage, qu'on soit marié ou non, d'honorer cette institution-là sacrée de Dieu. Donc, on se rend compte que peut-être qu'Elkanah a fait ça par inconscience, ou ce n'était pas connu à l'époque, mais on voit quel problème que ça cause dans la famille. Anne est victime, finalement, de persécution par, je ne sais pas comment on l'appelle, par Pénina, oui, mais comment, quel nom on lui donne, c'est pas sa sœur, c'est la femme de son mari. Il n'y a pas vraiment de nom. Hein? Il semble, d'après ce que je comprends, Anne avait été la première épouse, en ordre chronologique, si on peut dire. Là, j'ai l'impression qu'Elkanah a d'abord épousé Anne, et peut-être que parce qu'elle était stérile, en ce cas, il ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est peut-être pour ça qu'il a pris une deuxième femme, Pénina, qui lui a donné des enfants. À l'époque, avoir une descendance était vraiment très important, même pour la survie, mais aussi pour pour léguer en testament ses biens, son nom. Le texte dit l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Ça dépend des versions qu'on a, mais les mêmes mots en hébreu peuvent signifier première et deuxième. Littéralement, c'est première et deuxième. Achat et Shanit. Peut-être que donc Elkana avait épousé par amour Anne, et Pénina, c'était pour finalement avoir une descendance. Mais Pénina le voyait. Elle voyait bien qu'Elkana aimait Anne et préférait Anne. Le fait qu'il lui donne une double part aussi lorsqu'ils allaient manger ensemble, lorsqu'ils allaient offrir des sacrifices. Et ça attisait la jalousie de Pénina. Et elle ne pouvait pas s'empêcher finalement de remettre sur le nez constamment de Anne qu'elle était sans enfant. Même pour comme la pousser, la provoquer à être en rébellion, même contre Dieu. Donc Anne était victime de sa méchanceté, puis elle pleurait beaucoup. On peut s'imaginer lorsqu'ils allaient à Silo, puis ils mangeaient, ils étaient peut-être autour d'une table, Elkana, Anne, Pénina avec tous les enfants, et ça sautait au visage que Anne n'avait pas d'enfant. C'était une douleur, et Pénina en profitait pour lui rappeler méchamment. Et Anne, ça lui coupait l'appétit, elle ne pouvait pas manger. C'est écrit ici dans le texte, et le texte l'avoue clairement, que c'était l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Mais aucune raison n'est donnée. Donc, on peut spéculer, mais ce n'est pas important. Ce que ça révèle, c'est la conviction profonde, et on voit que Anne le savait, que c'est Dieu qui a le contrôle sur tout. Donc, ce n'est pas dit que l'Éternel avait rendu stérile pour mettre un blâme sur l'Éternel ou un blâme sur Anne. C'est simplement une manière de reconnaître que c'était la volonté de Dieu. Dieu avait fait les choses ainsi. Et peut-être que Pénina voulait provoquer Anne à se rebeller contre Dieu, ou à lever son poing, à être en colère contre Dieu, ou prétendre que c'était une injustice. Qui sait? Mais Anne savait que Dieu était en contrôle, et elle savait aussi que Dieu avait le pouvoir de changer la situation. Donc, continuons à lire à partir du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Ici, c'est le mot « temple » qui est utilisé, mais on comprend que c'est le tabernacle, c'est le sanctuaire. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Et comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seulement ses lèvres remuaient. On n'entendait pas sa voix. Et Élie pensait qu'elle était ivre, elle était saoule. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. J'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien. » Car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alors Élie reprit la parole et il dit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route et elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et ils revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Wow, c'est un beau passage. Hein? Donc, Anne va devant le temple et elle prie son Dieu. On voit une femme de foi dans son attitude, dans sa demande. Elle est convaincue que Dieu peut l'entendre et peut intervenir. Même si, humainement, ça fait des années, puis elle est sans enfant, elle est stérile. Et manifestement, le problème n'est pas avec Elkana, c'est vraiment elle, mais elle est convaincue que Dieu peut intervenir, peut, s'il le veut, changer la situation. Elle priait beaucoup devant Dieu, elle épanchait son âme devant l'Éternel. Donc, elle lui parlait vraiment sans hypocrisie. Une femme qui va se courber devant le roi, l'Éternel désarmé, comme elle l'appelle. Et elle vide son cœur. On peut dire en québécois, elle était comme un peu dans sa bulle. était en communion avec son Dieu, au point où est-ce que Élie la regarde et dit, coudon, elle a trop bu. C'est peut-être une indication aussi de la déchéance qu'il y avait peut-être à cette époque-là. Si Élie pouvait conclure que quelqu'un viendrait devant le lieu saint, ivre, peut-être parce que c'était déjà arrivé, malheureusement. Mais en tout cas, on ne sait pas. Par la foi, elle a fait le vœu même. Elle savait tellement que Dieu pouvait, s'il le voulait, lui donner un fils, qu'elle fait le vœu même. Elle prend déjà des mesures pour qu'est-ce qui va arriver après. Si Dieu lui donne un enfant et que c'est un fils, elle va le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Son vœu même qu'elle exprime, le vœu dans lequel son fils va entrer pour la vie, ça ressemble au vœu du Naziréat. C'est probablement ça. Et Dieu avait prescrit aussi comment il voulait que ça se passe, le vœu du Naziréat. On lit ça dans la loi de Moïse, dans Nombre, chapitre 6. C'est que pour un temps convenu à l'avance, une personne était consacrée à Dieu, au service de Dieu. Normalement, il allait servir avec les Lévites. Il pouvait prêter main forte, mais il était vraiment consacré au service. Prêter main forte pour les sacrifices, peut-être l'enseignement, la justice, mais au nom de Dieu. Donc, pendant ce temps-là, il était séparé du reste de la population, séparé de sa famille, mis à part pour le service pour Dieu. Pendant ce temps-là, il ne devait boire aucun alcool, aucun fruit de la vigne. C'est écrit aussi qu'il ne devait pas se couper les cheveux. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête pendant toute la durée de son vœu de Naziréat. En fait, ses cheveux qui allaient pousser devenaient la marque qu'il était consacré à l'Éternel. Donc, si c'est bien le cas pour Samuel, ça veut dire qu'avec le temps, il avait une longue chevelure. Et c'est indiqué qu'il ne devait pas se rendre impur. Il devait constamment rester conscient qu'il est consacré à l'Éternel. Donc, il ne devait pas s'approcher d'un cadavre, d'une personne morte, même pas quelqu'un de sa propre famille, pour aller, par exemple, au funérailles ou aller pleurer sur la tombe de son père ou de sa mère. Il devait rester loin d'un cadavre pour rester pur pendant toute la durée de son Naziréat. Et Dieu dit, même dans Nombre, qu'il sera saint pour l'Éternel, un saint de Dieu. Donc, c'est un vœu qui est très particulier. On n'a pas beaucoup d'exemples d'une application de ce vœu-là. Ce qui est encore plus particulier dans le cas du vœu que Anne prononce pour son fils, c'est qu'elle le prononce pour son fils, c'est pas son fils qui l'a décidé. Mais en plus, que c'est la période définie, c'est toute sa vie. Wow! Ça dépasse même les conditions même exprimées dans Nombre 6. Comment est-ce qu'elle pouvait supposer même que son fils allait plus tard, lorsqu'il allait avoir l'âge de prendre ses propres décisions, il allait vouloir rester dans ce vœu-là pour toute sa vie? On voit ici que Anne, dans le fond, parle un peu comme une prophétesse. Elle a une conviction profonde que c'est Dieu qui l'a conduit à cela. C'est Dieu, finalement, qui a poussé Anne à faire cette prière. On va le voir dans 2 semaines, avec le cantique que Anne élève au Seigneur, sa prière, qu'elle est vraiment poussée par l'Esprit. Elle est prophétesse à ce moment-là. Elle n'est peut-être pas consciente, là, mais l'Éternel la pousse à faire cette prière, à demander un fils et à lui consacrer. Donc, dans le fond, Dieu pousse Anne à prier selon sa volonté. Et forcément, Dieu a entendu. Et même Élie a compris que la prière de Anne, elle provenait de Dieu. Je ne sais pas comment il a eu cette conviction-là, mais il s'est joint à elle, finalement. Il l'a béni, puis il s'est joint à elle dans sa prière. Il a demandé à Dieu qu'il l'exauce, qu'il lui accorde. Donc là, on a le souverain sacrificateur qui demande à Dieu d'accorder ce que Anne a demandé. On comprend que ça a fait chaud au cœur à Anne. C'est comme un signe pour elle que Dieu l'avait vraiment entendu et qu'il allait l'exaucer. Elle a repris appétit, elle a mangé. Son visage abattu n'était plus le même. Elle est repartie joyeuse. Et effectivement, Dieu l'avait entendue. Et pendant l'année, elle a accouché d'un fils. Elle a appelé Samuel. Elle dit « parce que je l'avais demandé à Dieu ». Littéralement, Samuel veut dire « entendu de Dieu ». Donc, elle a été entendue. Plus tard, on va voir que Samuel est entendu de Dieu lui-même. Il est exaucé par Dieu. Un beau nom. Maintenant, il reste à voir si elle va tenir parole et si elle va consacrer véritablement son fils à l'Éternel, le fils qu'elle avait attendu pendant tant d'années. Donc, lisons la fin du chapitre à partir du verset 21. Le mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel un sacrifice, le sacrifice annuel, et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. » Et la femme resta, et elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena devant, dans la maison de l'Éternel à Silo, et le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau, donc pour le sacrifice, et ils conduisirent le garçon à Élie. Anne dit, « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui ai demandé. Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc oui, elle accomplit son vœu. La Bible le déclare formellement que c'est très important d'accomplir un vœu qu'on a prononcé devant Dieu, un vœu prononcé à Dieu. On lit dans Ecclésiaste 5, « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. » Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'était une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Les conséquences sont graves pour quelqu'un qui fait un vœu devant Dieu et qui ne tient pas parole. Donc Anne a informé son mari qu'elle avait fait ce vœu-là. Et c'est une autre indication qu'Elkana est un homme pieux. Et il convient qu'il faut accomplir ce vœu. Et il lui dit que, ben, elle lui dit que finalement, c'est après qu'il sera sevré qu'elle va le conduire à la maison de l'Éternel. À l'époque, il semble que la femme pouvait allaiter jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, c'est peut-être vers 3 ans que le petit Samuel a été conduit à la maison de Dieu. Elle l'a amené au sanctuaire. Et Elkana a laissé Anne faire ce qui lui semblait bon. C'était une bonne chose à ses yeux. Bon, peut-être parce qu'il l'aimait, mais aussi parce que lui-même a été convaincu que c'était la volonté de Dieu. Anne avait prié, puis elle a eu son fils, c'était clairement une intervention de Dieu. Logiquement, Dieu conduisait aussi les pas de Samuel pour sa vie. Dieu avait manifestement un plan pour son fils. Donc, l'enfant avait été spécialement donné par Dieu. D'ailleurs, il exprime même, il souhaite que la volonté de Dieu s'accomplisse, que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc, il a même reconnu que la parole même que Anne a prononcée, c'était la parole de Dieu. Et une fois que Samuel a été sevré, elle est montée à Silo avec lui. On comprend qu'Elkana était là lui aussi. C'est-à-dire, ils se présentèrent. On lit même au chapitre 2 qu'ils se sont prosternés tous les deux, puis Elkana et elle sont revenus. Donc Elkana est là lui aussi. Il est monté avec sa femme. Et Samuel a été consacré au service de Dieu auprès du sacrificateur Élie. Un peu comme Paul qui a été formé au pied de Gamaliel, Samuel est formé au pied d'Élie. Donc, Élie lui-même a reconnu que la main de Dieu avait exercé sa puissance dans les événements. Il a reconnu que c'était l'intervention divine, la naissance de Samuel. Et c'est intéressant de voir dans Chronique, on voit la généalogie des pères de Elkana, donc le père de Samuel, et c'était un descendant de Lévi. C'était un Lévite. Donc, Samuel lui-même était un Lévite. Donc, ce n'était pas inapproprié qu'il se trouve au sanctuaire pour passer sa vie. C'était exceptionnel, mais c'était correct. C'était selon le plan de Dieu. Donc, Elkana et Anne se sont prosternés devant Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'Anne a dit une prière, un chant à la gloire de Dieu qui est présenté au chapitre 2, en présence d'Élie. On peut quand même s'imaginer que son cœur de mère devait être un petit peu déchiré de laisser son fils là, son petit garçon. Mais ça dit au début de son chant, « Mon cœur exulte en l'Éternel, mon cœur se réjouit. » Donc, elle était quand même remplie de joie. Dieu avait exaucé sa prière, puis c'était le meilleur scénario possible pour son fils. On apprend plus loin, de toute façon, que ce n'était pas un adieu. Anne est retournée voir son fils plusieurs fois, régulièrement, pour lui apporter des vêtements, peut-être bon, au minimum une fois par an. Puis Rama n'était pas très loin de Silo, de toute façon. Donc, elle a pu le voir grandir de loin. Elle a pris soin de lui. Élie aussi a béni Elkana et Anne pour ce sacrifice, en fait, qu'ils ont fait, tous les deux. Elkana aussi a accepté. Et Dieu a entendu même la bénédiction d'Élie. Et il a permis que Anne accouche de 3 fils et de 2 filles. Elle qui était stérile, elle a donné 5 enfants à son mari. Ce qui est frappant ici, lorsqu'on continue le reste du récit, on se rend compte que Dieu a donné Samuel à Anne en réponse à sa prière, mais en même temps, il était en train de donner un grand prophète, un grand juge, le dernier des juges, au peuple d'Israël, qui en avait vraiment besoin. Donc, lorsque Anne priait pour que Dieu lui donne un fils, peut-être qu'elle ne le savait pas, mais elle était en train de prier pour que Dieu leur envoie un conducteur. Ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est le plus grand prophète après Moïse. Il y a eu d'autres prophètes, mais c'est le premier des grands prophètes après Moïse. Et c'est lui qui va avoir la tâche honorifique là, de oindre les 2 premiers rois d'Israël. Il y a plusieurs personnages importants dans la Bible où leur naissance est racontée. Il y a des détails qui sont donnés sur leur naissance et on voit que leur naissance était difficile ou problématique, même, voire impossible sans l'intervention de Dieu. Quelques-uns qui vous viennent à l'esprit, Isaac n'aurait pas dû naître là, sans l'intervention de Dieu, il n'aurait pas pu naître. C'est Sarah qui l'a mis au monde alors qu'elle était très, très âgée, passé l'âge d'avoir des enfants. Jacob aussi est né par l'intervention de Dieu. Jean-Baptiste, sa mère était stérile. Mais l'intervention de Dieu pour faire naître un homme le plus formidable qui soit, vous devinez c'est laquelle, c'est celle de Jésus. Il a conçu le bébé Jésus dans le ventre de Marie alors qu'elle était encore vierge. Donc, à plusieurs reprises, Dieu a montré que son serviteur qu'il envoyait pour le peuple était né par son intervention. C'était clair que c'était le plan de Dieu qui s'exécutait. Et c'est la même chose pour Jésus. En fait, on peut voir même que plusieurs aspects de la vie de Samuel illustrent le Messie qui allait venir. On voit que Samuel, dans un sens, est comme un prototype, un type de Christ, un précurseur. Et on voit Jésus dans plusieurs détails de sa vie, à commencer par sa naissance qui est le fruit de l'intervention de Dieu. Jésus aussi est né à une époque difficile, sous l'Empire romain. Et les hommes pieux, les femmes pieuses en Israël, il n'y en avait pas beaucoup. C'est un phénomène rare. Dieu a accordé comme parents à Jésus, Marie et Joseph, un homme et une femme croyants, pieux, comme pour Samuel. Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Là, ici, on n'a pas de confirmation, puis ce n'est pas tous les commentateurs qui sont d'accord avec ça, mais moi, je vois un lien avec Jésus, le Nazaréen, et le vœu du Naziréa qui faisait d'un homme un Naziréen. C'est la même racine, et je ne suis pas en train de dire que Jésus a fait le vœu de Naziréa, il n'avait pas les cheveux longs poussés, il a bu le fruit de la vigne, vous et moi, mais je crois que le vœu du Naziréa dans l'Ancien Testament était comme une illustration du Messie qui allait être mis à part pour l'humanité, sacrifié, consacré à Dieu pour la durée de sa vie. D'ailleurs, Jésus est appelé le Saint de Dieu. Même les démons l'ont reconnu que c'était le Saint de Dieu. Ses apôtres ont dit qu'il est le Saint de Dieu. Il est celui qui est mis à part, consacré à l'Éternel. Même dans Matthieu 2, Matthieu souligne que le fait que Jésus soit appelé le Nazaréen, c'était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. En fait, le fait qu'il soit mis à part. Je crois vraiment que ça fait allusion au vœu de Naziréa. On l'a lu tantôt aussi ce matin dans Matthieu qu'avant de monter au ciel, Jésus était comme consacré à nouveau pour un rôle spécial. Il est notre intercesseur auprès de Dieu jusqu'à la fin des temps. Il monte au ciel dans le lieu très saint. Il est comme consacré, mis à part pour nous pendant ce temps-là. Et avant de monter, il a dit « je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en bois à nouveau avec vous dans le royaume des cieux. » C'est peut-être une autre indication. Donc, comme Samuel a été donné au peuple d'Israël pour une réconciliation avec Dieu, on va voir que par lui, le peuple va se reconsacrer. Et enfin, le peuple va être conduit par un roi. Ce n'est pas Samuel, mais c'est par Samuel que la venue de la royauté arrive. Mais Jésus a été donné aussi au peuple. Non seulement au peuple, mais à la terre entière, au monde entier. Quelqu'un a lu tantôt Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a mis à part. Il l'a consacré à son service, comme Elkana et Anne l'ont fait. Il a donné son fils pour que tous ceux qui tournent les regards sur lui, tous ceux qui croient en lui, ne meurent pas et que leur péché soit pardonné, qu'ils aient la vie éternelle. Tout un rôle important, même un rôle crucial. Et comme l'a dit Célestin, c'est le seul moyen là, d'être sauvé, d'être en paix avec Dieu, d'être réconcilié avec lui et d'être admis dans la communion avec Jésus. Croyez à cela, c'est la seule vérité. Mettez toute votre confiance en cela. Soyez sûr que si vous mourrez, si on meurt aujourd'hui d'un accident, la seule assurance qu'on peut avoir, là, qu'on, notre place est auprès de Dieu, c'est si on a mis notre foi en Jésus. C'est seulement la foi en Jésus qui fait en sorte que notre nom est inscrit dans le livre de vie et qu'on peut vivre pour l'éternité. Dans ce chapitre-là, illustre dans un sens, on voit un peu Jésus ici annoncé prophétiquement par la vie de Samuel. Mais il y a aussi des utilités très pratiques pour nous. Et on conclut avec ça. Quelques observations qu'on peut voir. Samuel est né dans un contexte très difficile et on peut vivre, chacun de nous, des situations difficiles dans nos vies. Ça peut être des situations difficiles dans notre famille, un peu comme Anne vivait avec Pénina. Ça peut être dans l'Église, parfois avec les frères et sœurs, ou dans une situation même personnelle, la santé, le travail, ou même avoir un enfant. Je ne sais pas quelles difficultés vous vivez. Il y a des difficultés qu'on a en commun aussi avec la situation de notre pays, qui est de moins en moins chrétien, si on peut dire. La situation planétaire aussi, qui peut provoquer des inquiétudes. Dans cette situation-là où il y a des difficultés, mais adoptons l'attitude de Anne qui ne doute jamais, et de Elkana aussi, qui ne doute jamais que Dieu est en contrôle. Dieu demeure l'Éternel des armées, en toutes circonstances. C'est lui qui permet, finalement, comme il a permis que Anne soit stérile pour un temps, c'est lui qui permet les difficultés qu'on vit. Et il fait toutes choses bonnes, même si on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas ses raisons. Il est toujours juste, il est toujours bon. C'est à nous de prier si on souhaite qu'une chose change. C'est à nous de prier Dieu avec foi pour qu'il intervienne, pour qu'il change cette chose. Et même si Dieu a un plan qui est déjà tracé, son plan comporte des femmes, des hommes comme vous et moi, qui le prient pour qu'il intervienne. Et vraiment, il entend. Et il répond. Et même si Dieu nous met à cœur une prière et qu'on prie selon sa volonté, c'est sûr qu'il va nous accorder ce qu'on lui demande. Et même nos frères et sœurs vont se joindre à nous dans cette prière, ça va sembler être une bonne demande. Ça devient même une prière collective. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'accent est davantage mis sur les prières en Église. Nous prions ensemble pour la guérison d'un frère ou pour telle ou telle requête. Le Saint-Esprit nous convainc finalement de la direction à prendre dans nos demandes pour Dieu. Mais pour cela, prions avec foi, avec sincérité. On peut s'approcher sans crainte du trône de Dieu et épancher notre âme, nos sentiments, notre détresse, si on vit une détresse, notre angoisse, notre inquiétude, notre colère, notre sentiment d'injustice ou un besoin. On l'exprime à Dieu qui ne nous blâme pas et il nous écoute. Et si on le fait avec foi, on a foi aussi que Dieu est juste et on va accepter la réponse qu'il va donner. Et parfois, Dieu peut répondre non. Même le Seigneur Jésus a demandé à son Père si c'était possible que cette coupe s'éloigne de lui. La réponse a été non. Mais il a accepté humblement et dans une parfaite soumission. Sachons de toute façon, en toutes circonstances, que nous sommes entendus de Dieu. Nous sommes des Samuel. Et si Samuel est né, ce qui est étonnant aussi quand on y pense, c'est parce que Anne a prié et Dieu l'a exaucé. Donc Dieu avait un plan pour que Samuel naisse, mais ça a pris l'intervention de Anne qui prie. Reconnaissons humblement que notre existence à chacun de nous, finalement, dépend de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a un plan. Si mes parents ne s'étaient pas rencontrés dans les années 60 pour se marier, je n'existerais pas. Chacun de vous, là, Dieu a conduit une circonstance pour que vous existiez aujourd'hui. Plus grand que ça encore, il conduit une circonstance pour que vous existiez dans la vie éternelle. En soyons reconnaissants de cela, reconnaissants de la vie qu'il nous a accordée, reconnaissant encore plus de la vie éternelle qu'il nous accorde. Soyons reconnaissants aussi de toutes les bontés dans ses réponses à nos prières. Et manifestons cette reconnaissance-là. Pas en faisant un vœu à la manière de l'Ancien Testament. Là. Je pense que Jésus nous met en garde de nous engager dans ce genre de choses-là. Mais il y a un vœu que tout chrétien doit faire de toute façon. c'est de se consacrer nous-mêmes, consacrer toute notre vie au service à Dieu. De se voir vraiment comme des saints. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous appelle des saints, consacrés, mis à part pour Dieu. Nous devons en prendre conscience. Nous ne consacrons pas nos bébés au Seigneur, nous nous consacrons nous-mêmes. En fait, c'est Jésus même qui nous consacre à son Père. C'est Jésus qui nous présente à son Père céleste. Mais prions pour nos enfants, bien sûr. Élevons-les dans la connaissance de Dieu. Mais donnons-leur surtout un exemple d'un homme et d'une femme consacrés à l'Éternel. Amen.